Nous retrouvons le procès Tassili. Deuxième partie. Juridique. Nous retrouvons Sacha De Niro pour un reportage en direct du compte psychiatrique de la Drivna.
Sacha De Niro, en direct du camp psychiatrique expérimental de la Drivna, ou plus précisément de sa section de haute sécurité, une sorte d'univers autonome à l'intérieur du camp. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Nous assistons à un procès expérimental, entièrement organisé par les détenus, sans l'intervention des autorités qui administrent le camp. Notre studio est situé au-dessus du réfectoire, qui est l'endroit choisi par les détenus pour exercer leur justice. Il vient d'y avoir une suspension de séance. Le juge, le public, qui joue le rôle de jury, l'accusé et son avocat ont quitté la salle du tribunal pour aller collectivement aux toilettes. À présent, la salle est vide, et je vais en profiter pour rappeler ce qui est en train d'être jugé. L'accusé, nommé Tassili, doit répondre de nombreux chefs d'inculpation. Je les reprends ici sans commentaire. Crime barbare sur cosmonaute, non-assistance à cadavre en difficulté, complicité d'enlèvement par araignée et outrage posthume à la mémoire des décédés. C'est donc très grave. En réalité, et à ce qu'on sait, Tassili a participé à une mission de contact et d'exploration assez obscure au fond d'un des dortoirs du camp. Ils étaient quatre à se glisser dans une sorte de tunnel au fond du dortoir 65. Tassili, mais aussi Breton, Groschmutz et Kalougine. Seul Tassili est revenu. Les pensionnaires le soupçonnent d'avoir assassiné ses camarades dans des conditions abominables. Le cœur du problème est évidemment cette histoire d'araignée, de contact à établir avec les araignées, et d'incompréhension totale entre notre monde et celui des araignées. De l'autre côté du tunnel, au-delà des dentelles effrayantes, comme le dit Tassili dans sa langue imagée, tout se déroule dans un climat d'extrême violence. Eh bien, pendant ce temps, la salle du tribunal a recommencé à se remplir. Le président reprend sa place, assis sur une table, sa casquette rouge vissée sur la tête. Il est entouré de plusieurs membres du jury ou du public. Nous en connaissons quelques-uns, le vieux Mingrelian, Molinari, Larivière, Romanov et bien d'autres. Tassili est lui aussi entouré d'un petit groupe. Tout le monde parle en même temps. Je crois qu'il commente un événement qui a eu lieu pendant qu'il se trouvait aux toilettes. Maintenant, tout le monde est là. Quelqu'un ferme la porte du réfectoire pour que le procès puisse reprendre.
Tout le monde est là ? Allez, tout le monde est là. Remettez-vous que vous étiez tout à l'heure. On va reprendre les débats.
Mais sans mon défenseur ?
Tiens, oui, effectivement, je ne vois pas Calcutta, le défenseur de Tassili. Tout le monde est là, mais pas Jeannot Calcutta.
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
Mais sans mon avocat, je suis plus jugé à la régulière.
T'inquiète pas, Tassili. Je vais assurer ta défense moi-même. La Louve et moi, on va être encore plus impartial que la musique. S'il faut objecter, j'objecterai. T'auras qu'à me faire signe.
Objection ! Ça va me faire trop bizarre d'être défendu par celui qui vient d'assassiner mon avocat.
Je l'ai pas assassiné, j'ai agi en cosmonaute. Autrement, c'était tout le tribunal qui partait en Titanic.
Ah, donc il s'est vraiment passé quelque chose de grave dans les toilettes. À ce que je comprends, le juge a tué Jean Calcutta, l'avocat de Tassili. Il l'a tué pendant la pause. Personnellement, je ne crois pas que la liquidation des avocats fasse partie de la procédure judiciaire normale. D'ailleurs, l'accusé proteste.
Non, moi, je suis pas d'accord. Je demande qu'on inscrive au procès verbal pourquoi j'ai plus d'avocat.
Il n'y a pas de procès verbal. On va inscrire ça nulle part.
Alors, il n'y a qu'à l'époumonner à Clairvoix.
Qu'est-ce que ça peut te faire qu'on époumonne ce que tout le monde a assisté dans les toilettes il y a 10 minutes?
Ça s'est passé dans la confusion et en mon absence. J'étais dans des cabinets de l'autre côté du couloir. J'objecte pour vice de forme. Et je vous préviens que nous allons en cassation, mon client et moi.
C'est que des conneries, Tassili. Tu peux pas être le client de toi-même.
Allez, Tassili! Tu as des exigences plus grosses que le ventre. Reprends ta place et on va continuer le procès vite chaud, bien chaud.
Objection! Mingrelian n'a pas à me donner des ordres.
Objection retenue. Dis, Tassili, c'est quoi que tu veux exactement? Tu veux qu'on te restitue un avocat ou tu demandes seulement qu'on dise au tribunal le pourquoi que t'as perdu Jean Calcutta?
Je veux qu'on revienne sur ce qui s'est passé avec Jean Calcutta. Et je veux pas qu'on tourne pas la page en catimini. Je veux surtout que Jeannot reste pas dans notre mémoire comme un morceau de chiffon. Il a essayé de me défendre au-delà des limites du corps humain. J'aimerais qu'on se rappelle ça ensemble et qu'on le couvre pas de boue comme un vulgaire bout de chiffon sale. Ensuite, le procès pourra continuer à la bien comme je te pousse, mais seulement ensuite.
Bon, alors sur la demande de Tassili, je vais raconter la triste fin de notre ami et camarade Jean Calcutta. Son idée, depuis le début du procès, était de produire des témoignages. Je pensais qu'il bluffait, mais on ne sait jamais de quoi un avocat est capable. Eh bien, on l'a vu de quoi il était capable. Une fois dans les cabinets du réfectoire, il a voulu prendre contact avec les araignées qui se trouvaient là. C'est des cabinets pas entretenus depuis longtemps. Il y avait des grosses toiles derrière les urinoirs et jusqu'au plafond. Certains d'entre nous ont aperçu plusieurs tégénaires. Calcutta a essayé de les approcher. Le tribunal s'était disloqué en plusieurs séries de cabinets, mais on était nombreux dans l'épicotière. Il n'y a pas que moi qui ai assisté à ça. Calcutta s'est adressé à elle comme si on n'était pas là, et comme s'il les connaissait depuis longtemps. Il leur a parlé avec sa bouche en langue générale et il leur a demandé de témoigner au procès de Tassili.
Moi, ça m'a énervé qu'il parle comme ça en public avec des araignées de chiottes.
Attends, la rivière, c'était son droit, on ne peut pas lui reprocher ça. Il faisait que son devoir d'avocat, il cherchait à faire venir à la barre des témoins de la défense.
Ça m'a énervé quand même. Il leur a parlé en langue générale, avec la bouche, comme s'ils étaient en entente de cul et chemise.
J'avais jamais vu quelqu'un parler comme ça à des araignées en langage. Il leur parlait avec la bouche, comme si de rien n'était. Je croyais qu'on communiquait avec elles seulement de tête en tête. Moi aussi, ça m'a énervé.
C'est pas ça qui a causé problème. C'est quand il a commencé à parler de l'organisation que ça a senti le roussi.
Ah, oh, c'est pas possible qu'il ait parlé de l'organisation avec les araignées. Il a jamais rien su de l'organisation. C'est des questions qui l'intéressaient pas. Il croyait pas au futur du camp, il croyait pas au futur de l'humanisme.
T'étais pas là, t'as rien vu, t'étais dans les cabinets de l'autre côté du couloir. Tu peux pas savoir s'il a parlé de l'organisation avec les araignées.
Depuis le début, vous dites tous que des conneries. J'ai aucune raison de croire vos conneries sur Jean Calcutta.
Objection, Tassili. On a été plusieurs à entendre Jeannot. Il a dit quelque chose comme... Le procès Tassili est mal emmanché. Si vous témoignez à des charges, l'organisation saura être généreuse avec vous quand on aura repris le pouvoir au camp et ailleurs. J'ai bien entendu, j'étais en train de pisser juste à côté. Ça nous a énervé, la Louve et moi. C'est pas parler de l'organisation, ça?
Il essayait de les embobiner avec des promesses. Mais c'était que des foutaises de négociateurs. Il a rien dit sur l'organisation.
Mais de toute façon, tu sais bien que c'est interdit de mentionner l'organisation comme si qu'elle existait encore. Et comme si qu'elle pouvait encore sauver le monde.
Et pour qui que c'est interdit? Pour les cosmonautes. Pour les cosmonautes en mission. Pas pour les avocats.
À partir du moment qu'il parlait aux araignées... Il avait viré cosmonaute. Il avait fichu aux orties sa robe d'avocat. À partir du moment qu'il avait viré cosmonaute, il devait respecter la réglementation. Tu sais ça par cœur. Tu as tué Breton parce qu'il se vantait sur l'organisation.
C'est pas moi qui ai exécuté Breton. C'est les araignées qui ont abattu la besogne à ma place. J'ai pas touché à un cheveu de Breton.
Et tout à l'heure, on a procéduré comme dans le manuel de bonne conduite du cosmonaute. La Louve m'a demandé de tête en tête si j'étais d'accord pour exécuter Jeannot. J'ai dit oui.
On a observé la procédure au millimètre. On s'est parlé tête en tête avec Mingrelian. Mingrelian est un ancien. Il a de la bouteille sur les liquidations pour traîtrise. On a décidé collectivement, en cosmonaute ou assimilé. Vas-y, que Mingrelian a dit à la Louve. Tu peux y aller, que j'ai dit de mon côté. La Louve a fait ni une ni deux. Elle a mordu Jeannot à un point paralysant. Et en dessous, il y avait juste une carotide. Il fallait faire ça à voile ou à vapeur. On l'a fait.
Ça, votre honneur, bravo pour la technique. Calcutta, il ne s'est même pas senti défaillir. Il est tombé la tête dans l'urinoir et il s'est vidé sans anicroche par la chair du cou. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie.
Alors, Tassili, maintenant, on peut reprendre le cours des débats?
Sans mon avocat, ça sera à la vie comme je te pousse. Oh. Ah, mais bon, maintenant, J'ai plus de requêtes en nullité ou en cassation.
Eh bien, nous assistons vraiment à un procès expérimental. L'avocat a été exécuté et les débats se poursuivent avec l'accord de l'accusé. Celui-ci a fait des difficultés, mais il n'a pas l'air particulièrement choqué par l'épisode. Il faut dire que, si j'ai bien compris, la tradition est établie entre les malades à l'intérieur de la Drivna. Celui qui parle de l'organisation aux araignées est aussitôt éliminé.
Donc, on reprend. On en était resté à la mort de Breton. Elle n'a pas été totalement éclaircie, mais on va admettre que ça s'est passé comme tu nous l'as débagoulé. Bon. Une fois Breton négocié, vous étiez tous les trois dans l'obscurité, Rochemoutz, Kalougine et toi, en face de la foule des araignées. Dis-nous la suite. Comment que t'as assassiné les autres et que t'es retourné dans le dortoir sain et sauf?
J'ai pas assassiné les autres. On n'avait plus nos masques. On n'avait presque plus nos visages non plus. Il fallait gémir ou mugir pour faire de la conversation. C'était le cauchemar. Devant nous, sur la noirâtre, Breton gicotait plus. Il avait plus de bras et plus de jambes. Bon, à mon avis, il avait même plus de mémoire immédiate. Les araignées étaient partout. Moi, je me tenais à trois pas de la noirâtre. Derrière moi, il y avait Kalougine. Et un peu plus loin, Gros Schmutz, qui se tenait debout et qui tâtonnait dans le noir. C'est lui qui était le plus près des dentelles effrayantes. Il se déplaçait pas. Il avait l'air collé au sol. Il tâtonnait comme un zombie aveugle avec des pieds pris dans le ciment. Derrière lui, il y avait les dentelles effrayantes. Il n'était pas assez près pour les toucher. Elles ondulaient pas. Elles étaient épaisses et sans ouverture pour faire demi-tour. Je peux pas dire leur couleur. Les dentelles effrayantes, on peut pas les décrire. Elles sont effrayantes, un point c'est tout.
Qu'est-ce que tu nous bassines avec tes dentelles, Tassili? On t'a pas demandé de nous décrire ça. Les dentelles, on s'en fiche. C'est Kalougine et Gros Schmutz qui nous intéressent. Comment t'as fini par les égouiller?
J'ai tué ni Kalougine ni Gros Schmutz. Pendant un moment, tous les trois, on a attendu que les araignées elles aient fini de zigouiller Breton. Kalougine était à petite distance derrière moi. Par petites bouffées de parole, il me demandait de tête en tête de bien vérifier si Breton était exécuté à 100%. Autrement, il insistait que j'intervienne pour finir le travail. Et tout d'un coup, il a dévissé. Je me suis retourné vers lui. Il n'était pas beau à voir. Il avait entièrement flambé du poitrail à la mémoire. Et il avait une grimace de rage. On voyait ses dents qui brillaient blanc et la tache grise de ses yeux. Tout le reste était noir à cause des brûlures, à cause de l'obscurité et à cause des poussières qui nous avaient tapissés quand on traversait des dentelles.
Attends, Tassili. Tu dis qu'il a dévissé. C'est quoi cette histoire?
Il a commencé à vomir de la biographie. Vous saviez qu'il avait essayé d'être moine zen?
Kalougine, moine bouddhiste?
Kalougine, moine zen, impossible, pas de moine bouddhiste chez nous.
C'est une tactique à deux sous. Kalougine, lui, il tombera pas dans le panneau. Tassili essaie de faire diversion avec des conneries, avec du bouddhiste de Kalougine et autres conneries.
On n'a jamais eu de moines bouddhistes au camp, ils les ont regroupés ailleurs. Ils leur ont brûlé la mémoire immédiate, ils sont même plus bouddhistes.
Si Kalougine était moine bouddhiste, alors moi, je suis la reine du Mozambique.
Laissez parler l'accusé. L'heure des délibérations n'a pas encore sonné. En tant qu'avocat de Tassili, je vous signale que l'accusé n'a pas terminé sa plaidoirie. Si vous continuez à faire des commentaires déplacés, je vais en cassation, mon client et moi.
M'appelle pas ton client.
Je t'appelle comme je veux. L'accusé a la parole. On t'écoute, Tassili.
Kalougine a commencé à déraper sur le bouddhisme. Il a commencé à me bassiner de tête en tête avec la chaîne infinie des naissances, des morts et des renaissances. Il m'a bassiné en vrac toutes ses connaissances religieuses. Ça m'a énervé. Il faisait même pas attention que je comprenne ou pas. Il m'a tout déversé son fardeau de bouddhisme en moins de temps qu'il en faut pour le cuire.
Objection, faudrait savoir. Tu venais de dire qu'on voyait ses dents et ses entrailles briller de fureur. J'ai jamais entendu parler d'un moine bouddhiste furibond en train de grincer des crochets de tout le poitrail de son corps.
Il voulait être moine bouddhiste dans sa jeunesse. Ensuite, il a échoué à l'examen. Ça lui a dégonflé la mystique. Alors il a viré cannibale et il a été incarcéré au camp avec nous. C'est des souvenirs de son premier ventre qui lui remontaient à la tête.
Eh bien, moi, je crois que Kalogi n'a rien à voir avec les moines. Tu nous débites du falsifié, Tassili. C'est des histoires qui puent la dissimulation de preuves et ton toutim.
Petit Louis, laisse l'accusé dérouler ses racontades. Il finira bien par trébucher droit dans le mur. Tu vas voir, il finira par avouer les assassinats de toute la troupe.
J'ai rien à avouer. Je vous dis comment que Kalogi a dévissé. Il m'a déversé des âneries religieuses dans la mémoire immédiate. Et ensuite, il s'est tourné vers les araignées. Et il leur a parlé de la Renaissance. Il a commencé à les bassiner avec du livre des morts, de la claire lumière et des histoires de matrices à choisir d'urgence pour renaître. Il prêchait à toute vitesse, en langue générale et avec un air furibard. Ben, ça les a énervés.
Elles étaient déjà énervées, non? À cause de Breton?
Oui, mais elles s'étaient calmées. Kalugin est devenu fou en quelques secondes. Il s'est mis à clamer du bouddhisme de pacotille en direction des araignées. J'étais tourné vers lui. J'ai vu que ça virait à 180 degrés au cauchemar total. La mission fonçait en titanique vers le sang et l'abominable. J'ai deviné le cannibalisme de Kalugin. Et la seule chose que j'ai pensé faire, ça a été de me réciter la prière des cosmonautes.
La prière qu'on récite quand le Titanic touche les vases du fond des vases?
5/5, votre honneur. La prière qu'on bafouille quand tout est foutu. Sauf que Kalugin s'en est pas pris à moi. Il avait commencé à remuer les jambes de manière bizarre de la maison bizarre. Peut-être que pendant ce temps, les araignées lui avaient lancé de la magie noire. Ou peut-être qu'il avait des prédispositions. En tout cas, brusquement, il ressemblait à un corps de tarentule sans visage. Il ressemblait plus guère à un détenu ou à un cosmonaute comme vous et moi. Et au lieu de me mordre, il s'est jeté en avant en zigzagant. Alors je l'ai évité. J'ai foncé ventre à terre vers les dentelles. Kalugin était déjà en train de s'enfoncer dans la foule. Et il commençait son cannibalisme.
Dans la foule des araignées?
Oui. Bientôt, il n'a plus été visible au milieu. Ça frottait et ça craquait de partout. Quand Kalugin se lance dans le carnage cannibale, hein, c'est pas beau à voir. Toutes les araignées, depuis tous les coins, ont fait direction vers lui. Pas mal ont été mordus et mangés pour commencer, mais ensuite, il n'a pas eu le dessus sur la multitude. Bon, à ce moment, j'étais à côté de Koschmutz. Il a mugi quelque chose dans ma direction.
C'était quoi qu'il mugissait?
Il mugissait que c'était pas beau à voir.
Accusé! Tu sais bien que Gros Schmutz était presque aveugle au départ. Dans l'obscurité, il pouvait même pas voir un mètre devant lui. Il n'a pas pu estimer si que le carnage était beau ou pas. Tu nous brodes encore un mensonge de plus.
Au-delà des dentelles effrayantes, c'est l'espace noir comme après la mort. Il n'y a plus ni beauté, ni absence de beauté. Il n'y a plus ni aveugle, ni regard perçant. Il y avait seulement une mission de contact qui s'effondre en Titanic au bout du rouleau. Gros Schmutz m'a mugi dans les oreilles que c'était pas beau à voir. Je répète son mugissement, j'ai rien à ajouter.
Ben si, Tassili, t'as encore quelque chose à ajouter. Comment que t'as bousillé Gros Schmutz et pourquoi que t'as été le seul à revenir?
Si j'avoue, vous me laisserez la vie sauve?
Écoute bien, Tassili. Tu as plaidé non coupable par l'intermédiaire de la bouche de tes avocats et c'est irréversible. Que tu avoues ou non, tu seras condamné. Tout le monde a compris que ton histoire tient pas debout. Pour Breton, passe encore, il a jamais eu aucun soutien dans l'opinion. Mais Kalugin et Gros Schmutz avaient des sympathies parmi les masses. Même avec ses crises de cannibalisme, Kalugin avait des partisans dans son dortoir et ailleurs. Faut regarder les choses en face, Tassili. T'es cuit. Personne n'a gobé tes élucubrations. Dis-nous comment que t'as bousillé Gros Schmutz. Ça avancera pas tes affaires, mais au moins, ça te soulagera la conscience en version originale.
Tu me parles en tant que juge ou en tant qu'avocat de la défense de l'accusé et consort?
Je te parle surtout en tant qu'humaniste de bonne volonté. On a assez perdu de temps avec toi, les débats touchent à leur fin. La salle s'impatiente, on a les lasers et la radio pointés sur nous.
Et les lasers et la radio, on les emmerde.
Oui. Mingrelian, me coupe pas le sifflet en vrac et en travers. Il est temps d'en finir, il faut pas nous interrompre, moi et la louve. Je demande à l'accusé Tassili de mettre un terme à son cirque de foutaises à dormir debout. Je lui demande solennellement de prendre à bras-le-corps sa conscience de cosmonaute et de nous mouliner la version finale de ses crimes horribles. Accusé Tassili, à toi.
Je remercie solennellement la cour de me donner la parole. Et puisqu'elle me la donne, je la prends. En fin de compte, je me fiche de mentirer ou non avec la vie sauve. Je suis comme tout le monde au camp de la Drivna. Je m'en fous la mort.
On t'écoute. Fais tes aveux.
Bah, oui, j'ai bousillé Groschmuth. J'avoue que je l'ai bousillé, puisque c'est ça qui vous intéresse et que vous me demandez d'avouer. C'était lui ou moi? On était en état de légitime défense, mon client et moi.
Dis les circonstances du bousillage.
Personne ne va me croire.
Dis en plus, Tassili. Le jury est oui.
Pendant que Kalugin se battait avec la foule, une autre partie des araignées est restée immobile près d'une muraille en pente douce. Je pense qu'elle nous envoyait des images de tête en tête. Mais c'est difficile à savoir. On ne pouvait pas s'y opposer et on ne pouvait pas vraiment s'en rendre compte. Elle nous travaillait la mémoire immédiate. Sans doute qu'elle nous empoisonnait l'intérieur avec des images d'elle et avec des mots en langage d'araignée. C'était des messages d'action anti-cosmonautes. Groschmuth les recevait en même temps que moi.
Quel genre de messages?
Des messages abominables. C'était pas beau à recevoir.
On attend des détails, Tassili. T'arrêtes pas à mi-chemin.
Des messages de cannibalisme en langue d'araignée. Vous avez jamais reçu ça, hein? Vous pouvez pas comprendre. On s'est regardé, Groschmuth et moi. On avait le corps en guenille, le visage brûlé. Il me mesurait de son regard de gros myope, presque aveugle. Je savais ce qu'il avait comme urgence en tête. J'avais la même chose au même endroit, le même désir urgent de viande cosmonaute. On avait tous les deux, au même moment, la folie cannibale des pieds à la tête. C'était lui ou moi. Il a essayé de m'empoigner, et je lui ai échappé. Je suis plus fort que lui. J'ai esquivé une deuxième empoignade, et je l'ai déchiré au ventre et au visage. Il s'est effondré en avant sur les genoux. Il me voyait mal dans l'obscurité. Je l'ai contourné, et je l'ai mordu à la nuque sans le lâcher. Jusqu'à ce qu'il mollisse. Il avait un goût de charbon. Même sa moelle épinière avait grillé en surface.
Tu l'as mangé?
Donc, tu avoues que tu as cannibalisé Groschmuth?
C'était lui ou moi? Je l'ai mordu. Et j'ai réfléchi que si je restais là trop longtemps à le finir, les araignées allaient s'occuper de moi. Je ne l'ai pas beaucoup cannibalisé. J'ai reculé jusqu'aux dentelles effrayantes. Et je les ai franchis dans l'autre sens, sans demander mon reste.
Quel reste?
Ben maintenant, ça suffit. On en a assez entendu. On va pas continuer les débats comme si on avait que ça à faire. D'ailleurs, ça va être bientôt l'heure d'aller à la cantine.
Oui, il a fait que nous raconter des histoires de fous.
Il n'y a pas de témoins, on saura jamais ce qui s'est passé.
Moi, je suis tout petit. Et il pleut.
C'est parole contre parole, araignée contre cannibale. On ne saura jamais la vérité.
À quoi ça sert de vouloir entendre la vérité puisqu'il est coupable?
Ah oui, c'est vrai, à quoi ça sert? C'est de la vérité abominable contre du mensonge abominable. On n'a qu'à le zigouiller tout de suite.
Tassili, moi, il ne m'a jamais plu. Je vais voter pour qu'on zigouille vite pendant qu'il est encore chaud.
Est-ce que le jury se retire pour délibérer, votre honneur?
Je pense pas qu'il y ait besoin de délibération. Il m'appelle pas, votre honneur. L'accusé a avoué pour Groschmuth et on croit pas ses contes et légendes pour Breton et Kalugin.
On n'a qu'à appliquer la peine tout de suite.
Là-dessus, on est tous d'accord. On n'a qu'à procéder à un vote par consensus. Bon, le consensus est approuvé avec quorum et tout le toutim. L'accusé est condamné à la peine maximale. Tassili, t'as quelque chose à ajouter?
Si je fais appel, j'aurai la vie sauve?
Rien t'empêche de faire appel. De toute façon, t'auras pas la vie sauve. Compte tenu que t'as avoué, t'as plus le bénéfice du doute.
Mon client et moi, nous faisons appel. Nos aveux ont été extorqués sous la contrainte.
Appel rejeté, tu dis que des conneries, Tassili. C'est moi ton avocat jusqu'à ce que l'exécution soit exécutée. Et je fais pas appel. T'as eu un procès équitable. De toute façon, dès le départ, t'étais cuit. On aurait pu se passer de débat. On a fait ça pour la radio et parce qu'ils nous menaçaient là-haut avec leur laser. Autrement, on t'aurait négocié à la bonne franquette dès ton retour d'expédition. T'es pas né un bonjour, Tassili. T'as pas eu ta bonne étoile. Ta vie est partie en Titanic dès le début. Et c'est aujourd'hui que ça touche le fin fond des vases. On en est tous plus ou moins là, mais pour toi, en tout cas, c'est aujourd'hui que tu finiras de sombrer.
Qui que ça sera le juge d'application des peines?
C'est la louve. On fera ça après la cantine.
Je vais avec vous à la cantine?
Bah oui, on va tous se restaurer à la cantine avant l'exécution de la peine. La séance est levée!
Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs de France Culture, il nous reste à nous séparer. Le verdict a été rendu, la peine va être appliquée. C'était Sacha De Niro pour une émission consacrée à un procès expérimental au camp psychiatrique spécial de La Drivna, retransmis en direct par France Culture dans sa série Juridique. Merci aux techniciens sans lesquels cette émission n'aurait pas pu être réalisée.
Juridique.
Docteur Bérégoyan, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez les laisser procéder à l'exécution de Tassili?
Comme vous l'avez vu, c'était du théâtre, mais pas de la justice. Vous avez compris quelque chose à ce qui s'est passé dans le dortoir 65? Non, franchement, De Niro, vous y avez compris quelque chose?
C'est vrai qu'on a du mal à croire la version de Tassili.
Évidemment que vous avez du mal à croire ça. Ils ont fabriqué entièrement ce procès sur des mensonges pour nous empêcher non seulement de connaître la vérité, mais même pour nous empêcher de l'imaginer. Tout ce qu'ils ont dit est faux. C'est une bande d'irresponsables et de comploteurs. Ils sont extrêmement dangereux. On les laisse se débrouiller entre eux en autogestion, mais finalement, autogestion ou pas, c'est nous qui assurons l'ordre au camp. Tous ceux que vous avez vus aujourd'hui forment un groupe qui ne nous plaît pas. Ils ont le projet de faire alliance avec les araignées. Et ce n'est pas la première fois qu'ils essaient. Bon, jusqu'à présent, ça n'a rien donné. C'est toujours tombé à l'eau. Ça a viré en Titanic. Mais un jour, peut-être, ça réussira, et ça ne nous plaît pas du tout comme perspective. Le projet ne nous plaît pas, et ce groupe ne nous plaît pas. N'est-ce pas, docteur Agatienko?
Nous les surveillons depuis des mois. Ils le savent. Et sous nos caméras et nos micros, ils jouent en permanence une pièce de théâtre qui cache leur activité réelle. Ils s'arrangent pour que nous ne comprenions rien de ce qu'ils font. Ils sont fourbes, très dangereux, et se camouflent. Ils mentent. Et ils ont des meneurs qui font allégeance à l'organisation. Nous n'avons aucune prise sur eux.
Et ils le savent?
Je n'aime pas l'expression, mais pour résumer, ils essaient de nous baiser la gueule.
Et donc, on va les éliminer. Sous prétexte de lutte contre les araignées, on va les regrouper dans un dortoir intermédiaire et on va les enfumer pendant leur sommeil.
Les enfumer, qu'est-ce que... Vous allez les éliminer, vous voulez dire les...
On a besoin de place pour la fournée suivante. Il en arrive sans arrêt. On a besoin de beaucoup de place. La justice, l'autogestion et la psychiatrie expérimentale, toutes ces foutaises, ça passe après.
Et puis il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas réussi à nous baiser la gueule. Oh. Ça me ferait plaisir qu'ils comprennent ça avant de crever, ces débiles.
Sacha. Qu'est-ce qui se passe, Sacha?
En complément de programme, nous retrouvons Sacha De Niro, Parole de fou.
Eh bien, aujourd'hui, nous nous trouvons à Val d'Orbise, dans un charmant asile de taille moyenne, très tranquille, entouré de forêts. Nous nous sommes installés dans le hall du bâtiment principal. Une belle maison de maître en pierre de taille du XVIIIe siècle, qui a été aménagée il y a 30 ans pour recevoir des malades qui ont besoin de soins psychiatriques, ou en tout cas, qui ont besoin d'être à l'abri du monde pour une longue période. Notre premier invité ce soir est Raymond Chaoumoff, qui est venu avec son CV pour se présenter aux auditeurs et aux auditrices de France Culture. C'est un petit homme d'une cinquantaine d'années, assez timide et renfermé, mais je crois qu'il veut vraiment nous parler ce soir. Raymond, vous êtes à Val d'Orbis depuis longtemps. On m'a dit que vous êtes entré dans le système pratiquement à votre naissance.
Pas la peine de m'appeler Raymond. Vous pouvez m'appeler Chaoumoff. J'ai ma vie, ici, sur le papier. C'est mon curriculum. Mon curriculum, vous savez ce que c'est?
Oui, oui, je sais. Vous l'avez écrit et vous voulez le lire à l'antenne.
J'ai écrit ça. C'est tous mes hauts faits et mes bonnes œuvres. C'est ma vie. C'est d'un bout à l'autre. Excusez si c'est un peu en désordre, mais c'est quand même chronologique. J'ai écrit ça pour progresser dans la carrière.
Oh là là, je vois qu'il y a plusieurs pages, on ne pourra peut-être pas tout lire. Allez-y, Chaoumoff, commencez.
C'est tout ce que je suis capable de faire et tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est normal que ça tienne sur plusieurs pages. J'ai extirpé de là les renseignements trop personnels. Les noms, les dates, les numéros de lit, les noms des dortoirs. C'est mon curriculum, mais il faut tout de même pas que ça m'apporte des nuisances avec le personnel.
C'est un CV sans données trop précises. On comprend ça, Chaoumoff. Allez-y.
Je dis pas où je suis né et quand. Je vais droit à l'essentiel. Mes qualités, ce que je fais et comment que je le fais. C'est pour changer d'établissement, c'est pour progresser dans la carrière.
On est d'accord, Chaoumoff. Allez-y.
C'est pour que vous sachiez ce que j'ai fait de mes viandes avant maman. Balayage, brûlage de feuilles, petit transport sans responsabilité, accompagnement de mourants, surveillance du potager, auxiliaire de buanderie, rembourrage d'oreillers et de coussins, confection de charpie, collecte de vieux papiers, collecte de mégots et réfection de cigarettes, inspection de chambres, logements, immeubles et locaux inoccupés, organisation et suivi d'obsèques pour petits animaux, auxiliaire dans les monologues collectifs, pratique du monologue individuel, secourisme sur grands végétaux, lavage de véhicules, désinfection de chariots de transport médical, organisation d'après-midi d'anniversaire pour petits animaux, aide à l'apprentissage de la station verticale, collecte statistique de données atmosphériques. C'est pour qu'on sache bien mes aptitudes et qu'on en tienne compte pour mon prochain transfert ou avant qu'on me tue.
Mais oui, Chaoumoff, une synthèse de vos activités. C'est depuis le début de votre incarcération ici?
C'est de bout en bout. Un peu en désordre, mais globalement, de bout en bout, avec mes viandes, du début à mon dernier soupir.
On ne pourra peut-être pas tout lire, on a une deuxième invitée, mais allez-y, pour l'instant, vous avez le micro.
Rafistolage de petits matériels agricoles ou autres. Ouverture de portes et courbettes devant le personnel médical. Tentative de soutien affectif aux veuves éplorées. Arrachage des feuilles de l'éphéméride de l'infirmerie dans le pavillon bas à barre. Mélange de couleurs, les jours de peinture. Dialogue avec certains passereaux. Mise en abîme de déchets à la décharge d'ordures du camp. Exploration de sous-sol. Tri de guenilles à l'occasion de certaines lessives. Observation des écorces de platane. Auxiliaire dans la modification temporelle lors du passage à l'heure d'hiver. Prise de parole lors d'une conférence sur les chauves-souris. Renouvellement d'adhésion à l'amicale des anciens de Bulduk-Ji. Aide à la fraternisation avec les unijambistes. Recensement de chats. Fourniture de preuves de vie. Réparation précaire d'espadrilles. Manipulation d'interrupteurs. Auxiliaire de préparation à l'extinction des feux. Imitation de corneille. Imitation de chouka. Imitation de crapaud-buffle. Présence au comptoir de plusieurs stands lors de la fête annuelle. Reddition sans condition. Ramassage de détritus et leur mise à disposition d'amateurs volontaires ou non. Fermeture de barrières. Échange de pyjamas entre malades. Promenade en tenue légère de promeneur. Jardinage sur petite surface. Auxiliaire de pliage de draps. Auxiliaire de transport de couverture. Renonciation à l'apprentissage de l'alphabet
morse. Bon, merci, Chaoumoff. On va mettre un point final. Il faut passer à la deuxième partie de notre émission consacrée à une malade qui a bien voulu nous accorder une interview. Magali Mondrian.
J'ai pas terminé, je peux pas faire plus vite. J'ai beaucoup vécu, j'ai des viandes en commun avec celui qui parle. Faut donner de la voix et du curriculum jusqu'au bout. C'est des preuves de vie. Les infirmiers m'ont dit que c'était des preuves de vie.
Mais vous nous avez magnifiquement prouvé votre existence, Shaumov, mais maintenant il faut rendre le micro à votre camarade, Magali Mondrian.
Pétrification en crabe tourteau pendant les inspections surprises. Enfoncement de bonnet jusqu'aux yeux. Demande de renseignements sur les chacals. Demande de renseignements sur les chutes du Zambèze. Participation à une entreprise de fruits et légumes en tant que testeur. Participation à une campagne de solidarité en tant que bénéficiaire. Empreinte casquette à long terme.
C'est fini, Shaumov. Écoutez, je vais vous retirer le micro. Voilà. Vous voulez bien. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Magali Mondrian. Vous voulez bien vous... Écartez-vous, Shaumov. Voilà.
Recherche d'équilibre en solitaire.
Pardonnez-moi.
Aide au remplacement d'une ampoule électrique dans le hall d'entrée.
J'ai à présent à côté de moi Magali Mondrian du pavillon 8. Après coupure, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, également, comme Raymond Shaumov, avec un visage nerveux et très pâle, des cheveux noirs, récemment rasés, et un regard assez difficile à soutenir, je dois dire. Un regard d'une grande violence qui oblige à baisser les yeux tout de suite. Magali, vous savez que vous avez un regard qui coupe comme une lame de couteau?
Vous êtes obligé de m'appeler Magali pour votre émission?
Non. Vous préférez autre chose?
Je déteste qu'un journaliste inconnu m'appelle Magali. Puis si vous ne pouvez pas soutenir mon regard, ça m'est complètement égal.
Vous êtes pensionnaire du Val d'Orbise depuis 15 ans. Êtes-vous consciente du temps qui passe? Comment avez-vous reconstruit votre existence après votre admission dans le pavillon 8?
J'ai été incarcéré pour des motifs futiles. Des pluies de sang, des mésententes avec mes voisins, une mauvaise compréhension du monde et une mauvaise compréhension des relations entre hommes et femmes. J'ai rien eu à reconstruire. J'ai été condamné à perpétuité, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Ici ou ailleurs, c'est pareil. Il n'y a rien à tirer du monde et il n'y a rien à tirer des rapports entre hommes et femmes. Ici ou ailleurs... Il y a les mêmes responsables à abattre, les mêmes malheurs, les mêmes corps. Ici ou ailleurs, les hommes violent les femmes et les femmes acceptent de se faire violer. Ici comme ailleurs, les hommes pensent en langage de queue. Quand ils voient une femme, ils voient une femelle. On leur donne des drogues et c'est vrai, ici, ils ont le langage de queue moins développé. Ici, ils sont plus normaux que dehors. Dehors, les mâles violent les femelles. Parfois, les femelles acceptent. Parce qu'elles pensent que c'est la nature et qu'elles appartiennent à la nature depuis des dizaines de millions d'années. Elles ont ça depuis des dizaines de millions d'années qui leur dit que le viol est indispensable pour la conservation de l'espèce et aussi que ça a toujours été comme ça et pas autrement. Depuis qu'elles sont petites, on les prépare à accepter ça. Depuis qu'elles sont bébés, dans la famille, tout le monde les prépare. On plaisante là-dessus, on leur fait chanter des chansons d'amour, on les habitue au langage de queue des garçons. On les oblige à admettre la pensée de queue des garçons, le langage de queue autour d'elles. On les oblige à penser que le viol est une activité normale entre hommes et femmes. On les manipule là-dessus pendant toute leur enfance. On leur dit que c'est la nature, que c'est peut-être douloureux et dégoûtant, mais que c'est la nature. C'est peut-être humiliant et infect, mais c'est la nature. C'est peut-être barbare, mais c'est la nature. Pour les mâles. Ils n'ont pas besoin d'explications en langage de bouche. Ils n'ont qu'à écouter les bruits et les rugissements permanents de leurs glandes. Depuis 150 millions d'années, ils sont programmés pour ne pas penser au moment où les glandes leur ordonnent le viol. Je ne vais pas développer comment leur pensée de glande ou de queue se transforme en pensée de bouche obscène, ou au contraire faussement élégante ou même poétique. Je ne vais pas raconter le quotidien de la pensée de viol cachée sous mille mots de bouche et mille regards de viande qui font semblant de ne pas être du viol. Je ne parle même pas des traducteurs de glandes, les poètes et des chansonniers et autres journalistes et autres connards. Les mères essaient de faire passer le message pour quelque chose de naturel et délicieux et pour qu'il se grave bien dans leur cervelle de fille, elles le répètent 300 fois par jour pendant que les filles grandissent. Ne pas oublier non plus les propagandistes femelles des journaux féminins et de la parole féministe qui sont totalement drogués par le langage de queue des mâles et qui le braillent à leur place en parlant de désir et de plaisir et autres conneries de viande. Résultat, comme tous les soirs, M. Barnabé viole Mme Barnabé et Mme Barnabé est consentante, mais c'est un viol. Résultat, plusieurs fois par semaine, M. Urumji joue avec sa queue et avec Mme Urumji. Et Madame Urumji est d'accord, et elle participe activement aux échanges de viande et de liquide, mais c'est un viol. Résultat encore, Magali Mondrian n'a pas été convaincue par sa mère. Elle se bat contre le viol, elle se bat contre le langage de queue et contre les viandes des hommes, et elle se retrouve incarcérée à perpétuité à Val d'Orbise. Voilà ce que j'ai à dire.
Eh bien, merci infiniment, Magali Mondrian, pour ces paroles fortes qui ont certainement impressionné nos auditeurs et nos auditrices. Merci d'avoir bien voulu participer à notre émission Paroles de Fou, enregistrée aujourd'hui dans le hall de la clinique psychiatrique du Val d'Orbise.
Et puis, faut pas se faire d'illusions, hein, journaliste. Sous tes airs de jolie viande journalistique bien sage, il y a du langage de queue qui sursaute. Ça te remue la pensée en permanence. Tu parles en langage de bouche, mais tu penses juste en dessous avec tes glandes et ta viande, avec tes mots de marécage de l'air secondaire. Ça sent le pourri et la queue de reptile mammalien dans ton cerveau. Ça sent la normalité des mâles du dehors. Ça sent la viande normale.
Voilà, merci.
Et ça pue.
Merci beaucoup, Magali Mondrian. Je vais vous reprendre le micro. Je vais le passer à notre troisième invité, Amaya Kouligine. Voilà, qui est en train de s'approcher.
Bienvenue, Amaya Kouligan, pardon, excusez-moi, et non pas Kouligine. Voilà, asseyez-vous, Amaya, merci. Je vais d'abord vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices de France Culture. Alors, Amaya Kouligan a été admise au Val d'Orbise il y a 12 ans. Je lis sur son dossier qu'elle avait 28 ans au moment de son incarcération. Elle a été en prison pour commencer à la suite d'une participation à des activités subversives et à des attentats. Mais en prison, elle a développé des crises de cécité, de paralysie et des discours délirants. Elle n'est pas passée au tribunal comme les autres membres de sa bande. Nous n'avons évidemment pas remué ces épisodes douloureux et judiciairement délicats de son existence. Nous allons lui donner la parole pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense du monde aujourd'hui et qu'elle nous décrive comment elle voit sa vie en ce moment, sa vie au Val d'Orbise. Amaya, en ce moment, vous vous sentez bien au Val d'Orbise? Vous avez des projets?
Il l'appelle Amaya. Il la connaît pas et il l'appelle Amaya. Il parle comme à une femelle débile.
Magali...
Et on devine son langage
de
queue, même dans les mots
Merci
qui passent
beaucoup.
Par sa bouche.
Voilà, Amaya, vous pouvez parler là, dans le micro que vous avez devant vous.
J'ai des projets, oui.
Lesquels? Vous pouvez tout nous dire. Vous avez la parole. Rien ne sera censuré.
On n'a pas peur de la censure. On a toujours été censuré et battu. On va de défaite en défaite depuis les origines. C'est pas ça qui peut nous détourner. C'est pas une question de foi, c'est une question de certitude. Même si ça demande 1000 ans, on sait qu'on tient le bon bout. À la fin des fins, on aura l'avenir entre nos mains. Et on en fera le maximum possible, et même plus, si nécessaire. C'est une question de certitude. On arrivera à pleine vitesse, dans notre programme maximum, et tout sera illuminé, et lumineux, pour tout le monde. Moins les méchants et les riches. Ceux-là, on les éliminera. C'est dans notre programme. Une fois les méchants et les riches bien éradiqués, ça sera radieux, quoi qu'il arrive. Possible qu'on sera plus très nombreux pour contempler ça. Plus qu'une petite dizaine, peut-être moins, va savoir. Mais on contemplera ça, et on sera aveuglés de bonheur. On va vers ça, de défaite en défaite, depuis le début, et on finira par l'atteindre. Mais en attendant, on prépare la phase la plus proche. C'est ça, nos projets.
Vous parlez souvent au pluriel, Amaya. Vous êtes plusieurs?
Oui, on est plusieurs. Même ici, au Val d'Orbise, on est plusieurs. En tout cas, si on me compte, ça fait plus que zéro. On est sur des postes d'observation, en attendant le signal de l'action proprement dite. On se fait des signaux visuels, et quand on a des crises de cécité, on a recours à des signaux sonores. Des imitations de cris qui passent inaperçus au milieu du brouhaha des pavillons. La nuit ici, c'est pas tranquille. C'est qu'une succession de soupirs ou de râles. Et il y a des vrais cris. On imite ça au milieu du noir, ça passe inaperçu. C'est notre langage à nous.
Ça passe pas inaperçu pour tout le monde. Au moins, c'est pas du langage de viande.
Et actuellement, au Val d'Orbise ou ailleurs, vous préparez quoi? Qu'est-ce que c'est cette phase à laquelle vous travaillez?
On prépare la naissance de la troisième Union soviétique.
Alors non, pardon, Amaya, attendez, je vous interromps. L'Union soviétique a disparu il n'y a pas très longtemps. Je ne crois pas qu'il soit déjà question d'en reconstituer une deuxième. Personne n'envisage ça actuellement. Alors pourquoi parlez-vous de la troisième Union soviétique? Vous disposez d'informations particulières à ce sujet?
La première a foiré lamentablement. La deuxième n'a pas encore apparu, mais quand elle apparaîtra, elle va foirer comme la première. C'est réglé comme du papier à musique. Je ne sais pas combien de temps elle durera, la deuxième. Peut-être un peu moins ou un peu plus longtemps que la première, mais elle va foirer. Ça ne peut pas se passer autrement. Nous, on prépare directement la troisième. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est en route.
Eh bien, merci, Amaya.
On va supprimer tous les violeurs, tous ces connards qui parlent avec leur viande et avec leur queue, tous ces connards qui ont des mots de viande et des mots de queue, au lieu d'avoir des paroles d'eux-mêmes.
Merci, Amaya Kouligan. Donc, nous quittons à regret les passionnantes perspectives que vous nous avez ouvertes. Merci, Amaya, pour votre participation à l'émission Paroles de fou. Merci aux autres invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Merci à Magali Mondrian. Et à Raymond Chaoumouf. Voilà. Alors, je crois que quelqu'un d'autre tient à participer à l'émission. Un invité surprise qui s'invite, je dois le dire, avec une certaine autorité, pour ne pas dire avec une autorité certaine.
Voilà. Je veux parler dans la radio. C'est mon tour.
S'il vous plaît, monsieur, ne bousculez pas le cours des choses. Pas de brutalité, je vais vous laisser le micro, mais votre intervention n'était pas prévue et je n'ai pas de fiche sur vous. Il faut que vous vous présentiez aux auditeurs et aux auditrices de France Culture. Alors, quel est votre nom ?
Tout le monde me connaît ici. C'est mon tour, je veux parler dans la radio. Ma grand-mère et ma sœur écoutent la radio. Je veux parler à ma grand-mère Gabi et à ma sœur Maroussia dans la radio.
D'accord, d'accord. Seulement, il faut que vous disiez aux auditeurs comment vous vous appelez.
C'est moi, Toby. Vous me recevez ? Toby Romachenko, vous me recevez ?
Tous ceux et celles qui écoutent la radio vous reçoivent, monsieur Romachenko. Vous pouvez en être certain. Non, laissez-moi prendre le micro. Voilà, je vais vous le tenir. Non. Rendez-le-moi. Voilà. Je vais vous le tenir. Parlez dedans.
Voilà.
Voilà, comme ça.
Mais Gabi, tu es au bout du fil ? Faut pas les écouter. C'est qu'une sale bande de dévoyés. Ils font que mentir. Il n'y a pas un centimètre de vérité dans leur discours. C'est que des dévoyés, des tortionnaires. Mémé Gabi, Maroussia, vous êtes là ? C'est moi, Toby. Ils m'ont enfermé au milieu des fous. Ils me rééduquent toutes les semaines. Avec des arcs électriques, j'ai plus rien dans la tête. J'ai plus que vous. Vous êtes au bout du fil ? Soi-disant que quelqu'un vous aurait fait mal, soi-disant pendant une guerre, c'est que des foutaises. Ils disent ça d'excuse pour me camisoler une fois sur deux. Ils me foutent la camisole et ils m'emmènent à l'électricité. La guerre, c'est dans leur tête, pas dans la mienne. La guerre, elle n'a pas existé. C'est pas possible qu'ils aient fait une guerre pareille. Mémé, Gabi, personne t'a séquestré dans un enclos. Personne t'a poussé dans des flammes. Maroussia, personne t'a enveloppé de fils de fer barbelés. Personne t'a promené derrière un tank jusqu'à ce que tu sois plus qu'une chose. Tout ça, c'est des conneries, Maroussia. Tu m'entends, Mémé, Gabi, tu m'entends ?
Ne criez pas dans le micro, Toby, elles vont vous entendre. De quelle guerre vous êtes en train de parler ? Il n'y en a pas eu depuis plusieurs années. À quelle guerre faites-vous allusion, Toby ? Monsieur Romachenko ? De quelle guerre parlez-vous ?
Il ne veut pas en parler. C'est une de leurs guerres. Une guerre comme il continuera à y en avoir jusqu'à ce qu'on ait établi une bonne fois la troisième Union soviétique. Ça bombarde et ça brûle en évitant de toucher les soldats. Les haut-parleurs crachent des explications sur la démocratie pendant que les piétons et les animaux rampent dans les flammes. C'est pour rétablir la démocratie. C'est d'une guerre comme ça qu'il parle et qu'il ne veut pas parler.
Bien, merci pour cette précision, Amaya Kouligan.
On peut nous faire croire que les conneries. Ils n'ont rétabli aucune démocratie là-bas. Voilà. C'est qu'un tapis de mensonges. Personne ne leur a fait du mal.
Toby,
c'est impossible
Toby,
que quelqu'un leur ait fait
voilà.
du mal.
Nous allons nous arrêter. Toby, l'enregistrement va s'arrêter.
C'est vrai que je les ai vengés sans faire dans la dentelle. Ils me font de l'électricité pour que les images de mes gamines et de ma sœur explosent dans ma tête. Mais aussi pour que je me reproche la vengeance. Mais je ne reproche rien. Je tiens bon sous la haute tension et les chocs électriques. Rien n'explose et je regrette l'enfer.
Nous allons à présent retrouver la séquence que vous attendez. Notre séquence micro-dortoir. Je vous en rappelle le principe. Sur des questions simples, nous promenons notre micro pour recueillir des avis au hasard de notre déplacement dans les bâtiments psychiatriques. Des questions simples, mais qui touchent à des préoccupations qui vont bien au-delà des murs de l'asile.
C'est quoi pour vous la folie ?
On a des tas d'espèces de bêtes dans la tête, des cafards, des fourmis, des araignées. Normalement, tout se passe bien. C'est quand leurs antennes dépassent à l'extérieur que ça commence à faire de la folie.
C'est quoi pour vous la folie ?
Moi, ils m'ont mis dans un sac. Mes viandes, dans un sac. Ils m'ont transporté ici pour que je guérisse. Ils m'ont dit que j'étais malade, mais c'était le sac. La folie, je ne sais pas du tout si c'est lié à moi ou au sac. À mon avis, la folie, c'est une sale maladie.
C'est quoi pour vous la folie ?
Demandez aux autres, moi je suis ici par erreur. J'ai eu une absence et je me suis retrouvé ici. On n'est pas nombreux ici à pas être fous. Le Val d'Orbise, c'est plein de détraqués. Mais on est quelques-uns à avoir été enfermés suite à une erreur. On se reconnaît entre nous. On a des sous-marins cachés à l'intérieur du ventre. C'est en sous-marin qu'on va s'enfuir. Ça va pas très vite, un sous-marin, mais ça fait pas de bruit. On va s'enfuir tous ensemble, une nuit, entre 3h20 et 3h42. Tous ceux qui ont des sous-marins ou des chaloupes à l'intérieur du ventre, c'est pas des fous. C'est à ça qu'on se reconnaît entre nous. Si vous voulez des renseignements sur la folie, c'est pas à moi qu'il faut demander.
C'est quoi pour vous la folie ?
Faut demander ça au docteur Pirosmani. C'est mon docteur au Val d'Orbise. Il sait tout sur tout sur moi, bien mieux que moi-même. C'est le docteur Pirosmani qui me soigne. Il utilise l'hypnose. Il utilise aussi des sondes mentales et les délations dans le dortoir. À moi, il a trouvé que j'avais de la confusion hébéphrénique et des érotomanies compulsives. Il m'a trouvé aussi de la logorée. On essaie de me retirer ça depuis l'année dernière, pour l'instant sans succès. Heureusement, c'est pas de la folie. Pour la folie, il faudrait interroger le docteur Pirosmani. C'est mon docteur au Val d'Orbise.
C'est quoi pour vous la folie ?
C'est comme quand on court toute nue dans le noir après la mort.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie ?
Les escargots ?
Pourquoi les escargots ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire, hein ? Vous êtes de la police ?
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie ?
Vous avez vu ? Le nuage ? Il ressemble à un gros zizi.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie ?
Rien n'a d'importance dans une vie ici. Pourquoi vous ne me demandez pas ce qui est le moins important ? Le moins important, c'est les oiseaux, les médecins, l'automne, les douches où on vous vole vos sandales comme ce matin. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le plus important aujourd'hui pour moi, ça aurait été de retrouver mes sandales en sortant de la douche. Si personne me les avait volées, ça aurait été le moins important de la journée, mais j'ai dû marcher pieds nus jusqu'au dortoir et c'est devenu le plus important aujourd'hui. Vous me suivez ?
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie ?
Le plus important dans la vie, je sais pas. On m'a changé de dortoir. Maintenant, j'ai un lit qui grince. Ça grince toute la nuit. À côté, il y a une femme qui ronfle et qui pète du soir au matin. Je pense que c'est important qu'on puisse choisir ses voisines et même sa chambre. Ça, c'est important. Autrement, on peut pas fermer l'œil à cause des grincements et des gaz.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie ?
Faut mettre des guillotines à tous les points de vente.
Pour vous, c'est le plus important ?
Faut mettre des guillotines et qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24.
À votre avis, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance ?
Bah oui, moi par exemple, je m'en souviens.
Et ?
Ça, pour m'en souvenir, je m'en souviens.
À votre avis, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance ?
Les éléphants, oui, eux, ils peuvent. Il paraît qu'ils ont une excellente mémoire, c'est ce qu'on dit. Une mémoire formidable, donc ils s'en souviennent. Mais à quoi ça leur sert de s'en souvenir, ça ? Je m'avance pas là-dessus.
À votre avis, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance ?
Ça dépend de comment qu'on est né. Quand on était dans un scaphandre avant de naître, on se souvient mieux de l'entourage. Le scaphandre, ça permet d'être plus autonome pour ses souvenirs. On a vu à travers le masque sans en prendre plein la figure. On se souvient mieux quand on n'en a pas pris plein la figure.
À votre avis, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance ?
Elle dit que des conneries, celle-là, avec son histoire de scaphandre. Avant la naissance, on n'est pas dans un scaphandre. On est dans le fond du vide à fond de cale. On est entortillé à l'intérieur de soi-même comme dans une boîte tordue. On peut rien voir et rien sentir et on peut rien se souvenir.
À votre avis, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance ?
Oui, ça se fait, mais je te conseille de te dépêcher de le faire avant ta mort.
D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux machines ?
Si l'avenir appartient aux machines ? Ben non. L'avenir appartient à des petites bêtes qui entrent dans les maisons pendant la nuit. J'en connais quelques-unes, que je vous donne pas leur nom, parce que vous commenceriez à leur faire la guerre et à les exterminer, comme vous avez fait avec les rats et les moustiques.
D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux machines ?
Vous voulez dire à quel genre de machine ? Aux mobilettes ? Si l'avenir appartient aux mobilettes ? Ou aux mixeurs, pour faire de la crème fouettée ?
D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux machines ?
Il y a plusieurs réponses possibles.
Et ?
Si c'est le film que je crois, ça va se terminer en autre boudin.
D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux machines ?
Ben non, l'avenir il appartient à ma cousine Rachel. Rachel Mayakouliaf, t'as l'air d'être un bon gars, toi. Tu veux son adresse ? Tu vas voir ce qu'elle va en faire, tes machines. Je te conseille pas de te déguiser en électronique.
Tu veux son adresse?
D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux machines?
Dans pas longtemps, ça sera tout en panne. Et plus personne ne saura réparer ces saloperies. Peut-être que les machines auront leur heure de gloire, ça, c'est possible. Peut-être qu'elles commenceront par foutre en l'air les garagistes et les réparateurs. Mais après, pour elles, les machines, ça sera Titanic et compagnie. Il n'y aura plus de machines, et plus de vivants, et peut-être même qu'il n'y aura même plus de morts. L'avenir appartient au vent et au sable. J'espère que ce sera éclairé par la lune pour faire joli.
Votre proverbe préféré?
Je sais pas. Ah, si. Ni Dieu, ni maître.
C'est plutôt un slogan, non?
Oui, c'est plutôt un slogan. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître.
Votre proverbe préféré?
C'est ma mère qui disait ça tout le temps.
Allez-y, on vous écoute.
Je suis plus très sûr. Faut jamais mettre tous ses chevaux dans le même panier. C'est ça? Ou ses cheveux? Au grand jamais qu'il faut pas mettre tous ses cheveux dans le même panier. C'est pas vraiment mon proverbe à moi, c'est plutôt ma mère qui disait ça à tout bout de manche.
Votre proverbe préféré?
Vous avez vu?
Quoi?
La femme, là-bas. Elle a une fesse plus grosse que l'autre.
Votre proverbe préféré?
Pour un œil, les deux yeux. Pour une dent, toute la gueule.
C'est un peu violent. Pourquoi celui-là?
C'est ce que j'ai fait à mon chef. Ça me rappelle de bons souvenirs. À lui pas, mais à moi, oui.
Votre proverbe préféré?
C'est une histoire de chien qui aboie. Je me rappelle plus bien.
Les chiens aboient, la caravane passe?
Non, c'est une histoire de chien qui aboie. Ça parle que de ça. Des chiens. Ils aboient. Je me rappelle plus pourquoi. Je me rappelle plus le reste.
Sur ce micro-dortoir se termine notre émission Parole de fou. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure sur France Culture. Merci à toutes les personnes du Val d'Orbise qui ont collaboré à notre émission. Merci à nos invités, ainsi évidemment qu'aux techniciens et à la régie.
Parole de fou d'Antoine Volodine avec David Jesselson, Laurent Cléry, Nathalie Kuznetsov, Yves-Robert Viala, Nathalie Janet, Natacha Laitier, Antoine Brugière, Marc Barbet, Pierre-Yves Desmonceau, Bénédicte Cerruti. Titre: Le procès Tassili. Sous-titre: Néant. Auteur: Antoine Volodine. Avec: David Jesselson, Quentin Bayot, Bernard Bouillon, Miglène Mirtcheff, Marc-Henri Boisse, Françoise-Henri Cumer, Nicky Marbeau, Marc Barbet, Jean-Gabriel Nordman, Marc Bonnard, Maurice Anthony, Loïc Pichon, Hervé Furic, Jean-Louis Greenfeld, Philippe Ciboulet. C'est tout? Antoine Brugière, Guy Lamarque, Pierre-Yves Desmonceau, Laurent Horry, Hugues Boucher. À la régie? Mathieu Leroux, Claude Niort, Benjamin Hu, Jean-Mathieu Zonde.
Signe particulier?
Absence de bruiteur.
Date d'enregistrement?
Octobre 2011.